Majid Oukacha, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes vidéaste, essayiste et auteur. Vous êtes surtout l'un des tout premiers ex-musulmans en France à avoir assumé publiquement son apostasie en montrant son visage, et il y a déjà plusieurs années. Mais avant de commencer, je voudrais passer un message à nos auditeurs. Nous lançons notre grande campagne de dons. Après 10 ans de Macron, on veut aujourd'hui nous vendre 10 ans de son successeur. Nous avons déjà démontré ce dont nous étions capables face à l'extrême gauche. Aujourd'hui, nous allons faire exactement la même chose face à l'extrême centre. En 2026 et 2027, nous serons les seuls à continuer à faire du vrai journalisme, à parler de l'invasion migratoire et de ses responsables, à faire des enquêtes approfondies et des reportages de terrain. Mais ça coûte cher, très cher, et c'est pourquoi nous avons besoin de vous. Cette campagne de dons est la dernière avant l'élection présidentielle. Avec votre soutien, nous pourrons tenir notre rôle, dire la vérité sans filtre et sans concession. Aidez-nous à continuer le combat. Faites un don dès maintenant sur www.frontieremedia.fr ou en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Dans vos précédents ouvrages et sur votre chaîne YouTube, vous analysez déjà avec rigueur les textes de l'islam, leurs contradictions scientifiques, les injonctions violentes ou liberticides. Mais avec votre dernier livre, « Ce que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman », paru en avril 2026, vous changez de registre. Pour la première fois, vous délaissez la critique théorique pour nous offrir un récit intime à la première personne. Celui de votre enfance et de votre adolescence au sein d'une éducation musulmane stricte en France dans les années 1990-2000. Vous racontez ce que vous détestiez déjà enfant puis adolescent dans les règles, les interdits, les injonctions et les croyances qu'on vous imposait. Un témoignage courageux sur le décalage ressenti très tôt entre l'école laïque française qui vous a rendu curieux et ouvert d'esprit et l'éducation religieuse reçue à la mosquée. Majid, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce livre arrive à un moment où les questions d'intégration, de laïcité et de vivre ensemble n'ont jamais été aussi vives. Dans tous vos précédents livres, vous analysiez les textes du Coran et des hadiths de façon très méthodique. Pourquoi, cette fois, avez-vous choisi de raconter votre propre enfance et adolescence musulmane à la première personne? Et qu'est-ce qui vous a poussé à passer du registre théorique au registre intime et mémoriel?
Alors, ce nouveau livre, donc ce que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman, dans lequel je raconte mon enfance et mon adolescence dans la religion islamique, en fait, il suit une certaine logique avec tous mes autres livres. D'abord, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, effectivement, comme vous m'avez présenté, je suis Majid Oukacha, je suis un ex-musulman, voilà, un apostat de l'islam, et depuis maintenant 10 ans, je fais la critique publique de mon ancienne religion. Un sujet que je trouve nécessaire parce que, pour deux raisons. D'abord parce que moi, je suis né, j'ai grandi en France et en fait, et je suis d'origine algérienne, et peut-être aussi parce que je suis né, j'ai été éduqué dans l'islam et à la fois je suis d'origine algérienne, donc extérieure au monde occidental, peut-être que je me rends compte encore plus de la chance d'être né dans des lois libertaires, égalitaires, occidentales. Et je me suis rendu compte au début de l'âge adulte, à l'âge de 18-19 ans, quand j'ai quitté l'islam, quand j'ai perdu la foi en l'islam, qu'en fait, je ne pouvais pas l'annoncer publiquement. Dans notre France, la France de Hugues Capet, de Clovis de Charlemagne, dans la France européenne, dans la France soi-disant des Lumières, à passé catholique, pays laïque aujourd'hui, pays occidental, je ne pouvais pas l'annoncer publiquement, je devais me taire. Je n'avais d'ailleurs jamais entendu autour de moi d'autres ex-musulmans oser l'avouer, si bien qu'on devait être très très peu nombreux à oser le dire. Et combien le cache, je ne le sais pas, je ne le sais toujours pas aujourd'hui d'ailleurs en proportion, parce qu'on reste très très rare les ex-musulmans à oser le revendiquer publiquement. Et je ne pouvais pas le dire parce que sur les lois, sur le papier en France, il y a écrit « tu crois en ce que tu veux et tu quittes la religion que tu veux », certes, mais... concrètement, dans les faits, en fait, il y a un risque, dans le moins mauvais des cas, de mort sociale. On a la réputation d'être des traîtres, d'être des débauchés, si jamais on quitte la religion musulmane parmi la communauté musulmane. Et je ne vous parle même pas du pire des cas, c'est-à-dire des agressions, voire même des agressions jusqu'à la mort. Voilà, mais en tout cas, effectivement, cette persécution, aussi bien intellectuelle que physique, des ex-musulmans, fait que moi, j'étais effectivement... devant ce constat amer de me dire que, voilà, dans la France du début du XXIe siècle, je ne peux même pas dire publiquement, je dois cacher le fait que je suis un apostat. Et l'autre raison qui m'a fait, effectivement, commencer à prendre la parole publiquement, c'est qu'en fait, j'avais remarqué qu'il y avait quelques initiatives d'intellectuels ou de politiques qui osaient dénoncer la montée de l'islam en France, l'islamisation de la France, mais ces initiatives étaient toujours classées à l'extrême droite par le milieu médiatique et politique. Même quelqu'un comme Philippe de Villiers, un des rares politiciens qui a osé critiquer l'islam, l'islamisation au début des années 2000-2010, il était ridiculisé dans les guignols. Je me rappelle d'un débat mémorable entre lui et Tariq Ramadan, je crois que c'était en 2007, où il n'était pas prêt sur un plan théologique face à quelqu'un d'habile, qui a pas double discours, mais trouble discours au moins, on va dire, face à quelqu'un d'habile. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte, ça c'est juste un élément parmi tant d'autres, qu'en fait, il y avait besoin d'avoir un bagage intellectuel pour faire une critique de l'islam en France, parce que si vous vous contentez de dire « on en a marre de l'islam » et vous n'argumentez pas sur le plan intellectuel, vous passez pour quelqu'un xénophobe qui en a marre d'une culture exogène à votre pays. Si vous dites « j'en ai marre de ce fichu, de ce voile sur la tête des femmes », les islamistes, ils sont habiles, ils sont très contents de vous présenter, vous les occidentaux qui détestez ce voile et l'islam, comme des talibans 2.0 du monde occidental, qui veulent expliquer aux femmes ce qu'elles doivent porter ou pas, tandis que eux, ces islamistes du monde occidental, vont dire « ah, tandis que nous, on n'oblige pas physiquement les femmes à porter le voile ». Alors, ils ne vous diront pas, effectivement, qu'ils font comprendre à ces femmes que c'est Allah et le prophète Mohammed qui leur a dit de se voiler, ce qui revient pratiquement au même de façon indirecte. Et donc, cette extrême droitisation de simplement la critique de l'islam, qui pour moi devrait être consensuelle, même des gens de gauche qui se disent gauche laïcarde devraient aussi critiquer le danger de l'islam, cette religion violente, misogyne. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a un sujet indirect à la critique de l'islam en réalité, c'est l'enjeu de l'immigration et la question de l'immigration. Parce qu'en fait, une fois que vous comprenez le danger de l'islam, vous commencez à vous interroger sur l'aspect qualitatif de l'immigration. On ne fait pas venir des petits chiots, des labradors qui n'ont pas de culture. En fait, est-ce que faire venir 3000 Norvégiens, c'est comme faire venir 3000 Afghans ou 3000 Somaliens? Est-ce que s'interroger sur l'aspect qualitatif de l'immigration, ce n'est pas aussi s'interroger sur la compatibilité culturelle de modèles culturels antagoniques, notamment l'islam, qui diabolise la liberté de conscience? Vous voyez, donc peut-être que ce veau d'or, ce tabou immaculé de qu'il ne faut surtout pas souiller ni questionner, de l'immigration incontrôlée et massive, peut-être empêche certaines personnes politisées, responsables associatifs ou politiques, d'oser aborder la question de l'islam, parce que derrière, forcément, il y a la question de ce tabou intouchable de l'immigration dont ils n'ont pas envie de parler. Et effectivement, j'ai commencé il y a une dizaine d'années à faire la critique de mon ancienne religion dans le but d'alerter, de mobiliser les Français contre un risque d'islamisation de la France. Moi, je comprends que je critique l'islam à travers son Coran, ses hadiths, parce que le but, c'est de démontrer que l'islam est misogyne et c'est pas sans raison. L'islam est violent et c'est pas sans raison. Il y a des raisons fondamentales et aussi... je comprends qu'il y ait des gens qui se disent « Bon, Majid, t'es bien gentil de vouloir remplir un vide avec la critique de l'islam, mais finalement, ta critique de vieux textes du Moyen-Âge, c'est digne d'une joute oratoire de deux bibliothécaires séniles un samedi soir à 3h du matin sur France Télévisions. » Oui, je comprends, en théorie, on se dit comme ça, mais en réalité, la critique du sujet de l'islam, c'est plein de choses, en fait. Ça interroge également notre identité, le contenu des programmes scolaires à nos enfants, le type d'immigration qu'on fait venir, le fait qu'on est dans une démocratie, donc c'est aussi la majorité qui décide, et il y a un risque culturel, effectivement, civilisationnel avec l'islam qu'il faut questionner. Et effectivement, je suis connu pour notamment deux œuvres, par exemple, « Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran », qui est un livre dans lequel je dresse la plus grande liste encyclopédique à ma connaissance de contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran, parce que même la critique de la violence dans le Coran n'est pas suffisante, parce que quelqu'un d'habile, un islamiste habile ou un défenseur de l'islam habile, il va vous dire « Bon, tu critiques des passages violents du Coran dans lequel Allah est violent, mais c'est une violence défensive. » Donc voilà, il va s'en sortir comme ça. Et vous ne détournerez pas de l'islam, vous ne démoraliserez pas les islamistes, vous ne détournerez pas les gens endoctrinés à cette religion. Par contre, si vous leur prouvez qu'Allah dans le Coran fait des erreurs mathématiques alors que c'est censé être une œuvre divine et parfaite, si vous lui montrez qu'il y a plein d'œuvres de contradictions, là vous arrivez à atteindre et à démoraliser ces islamistes, ces gens. Et là, vous nuisez efficacement à l'expansion intellectuelle entourée de mensonges et de non-dits de l'islam. J'ai également fait un autre livre, mon avant-dernier livre, « Ex-musulman, le guide de survie », dans lequel je fais j'analyse sociologiquement et culturellement ce que ça fait d'être un ex-musulman, même dans le monde occidental. Et enfin, pour terminer, pour ponctuer la réponse à votre question, en réalité, c'était on va dire, une introduction. J'ai écrit ce livre effectivement parce que ça fait finalement 10 ans que les gens connaissent ce que l'ex-musulman que je suis pense de son ancienne religion, l'islam, mais c'était bien aussi pour les gens, je pense, d'apprendre à connaître quel est le type de musulman j'avais été dans mon enfance et mon adolescence, un musulman occidentalisé qui a grandi dans une double culture, souvent présentée dans les médias en France comme, comme quelque chose d'enrichissant, une double culture. Mais en fait, non, j'ai grandi dans une double culture contradictoire, écartelée entre deux cultures totalement incompatibles. D'un côté, j'avais le discours de l'école publique laïque française qui me transmettait des belles valeurs pour m'émanciper, et de l'autre, en parallèle, une école parallèle, on va dire, la mosquée, qui me transmettait les valeurs contraires. Voilà. Et petit à petit, en grandissant, je raconte finalement tous mes doutes, et il y a un message sous-jacent dans ce bouquin, finalement, c'est que je raconte à quel point je me suis mis à douter petit à petit de l'islam, mais en fait, le message derrière, indirect, ça consiste à raconter qu'en réalité, c'est ma parfaite intégration à la France qui m'a aidé finalement à quitter l'islam, et c'est l'occidentalisation de mes valeurs et de ma culture qui m'ont permis de contrebalancer l'endoctrinement de mon ancienne religion. Et du coup, ça me permet, à travers un récit plus intimiste, voilà, où je me raconte moi-même, c'est une espèce de journal intime, je raconte vraiment comment de 8 ans à 18 ans, j'ai été éduqué et cru en cette religion, et comment petit à petit, je m'en suis défait.
Vous décrivez un enfant qui, très tôt, n'acceptait pas d'obéir sans comprendre. Pouvez-vous nous raconter les premiers souvenirs où cette différence avec les autres enfants musulmans s'est manifestée ?
Oui, effectivement, c'est pas parce que j'étais têtu, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, j'ai grandi notamment dans les années 90-2000, ça a beaucoup d'importance, parce que c'était une époque où, en fait, l'idée d'intégration et d'assimilation était une idée consensuelle tant par la droite que par la gauche. Intégration et assimilation des immigrants, de leurs descendants, voilà, de leurs enfants, effectivement. Et donc, moi, je me suis intégré à la France avec plaisir, et surtout, de 0 à 8 ans, avant qu'on me fasse mettre un premier orteil sur le tapis d'une mosquée, j'avais pratiquement jamais reçu d'éducation théologique familiale, en fait. Et ça a beaucoup d'importance parce que 99% des musulmans que vous allez croiser dans votre vie, ils le sont par éducation familiale. Les rares convertis à la recherche d'exotisme ou de quelque chose d'ordre identitaire et qui sont embobinés sont une exception statistique. Et donc, effectivement, à cet âge très important, les psychologues le disent, vous savez, de 0 à 8 ans, vous avez les bases de votre psyché morale, de votre tronc de valeurs et de mœurs, pratiquement pour le reste de votre vie, même si ça peut encore être corrigé, effectivement, à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Mais en tout cas, dans ces bases-là, dans cette tranche d'âge charnière, et ben moi, en fait, je n'avais pas été éduqué, je pense, contrairement à peut-être d'autres enfants qui assistaient aux mêmes cours d'initiation religieuse que moi à la mosquée dans mon enfance. Par exemple, on m'avait pratiquement jamais parlé d'enfer. Ça a l'air tout bête, mais on m'avait jamais menacé avec l'enfer. Et donc, je n'avais pas un rapport de peur et de chantage à l'islam. Du coup, j'étais vraiment insouciant, etc. Et peut-être que d'autres enfants qui sont restés enfants musulmans, adolescents musulmans, et qui persistent à l'être encore à l'âge adulte, en réalité, ils ont été traumatisés par ce chantage à l'enfer. Moi, on ne m'avait jamais, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu vraiment une famille qui m'a bien appris à m'intégrer à la France, et je pense que j'étais une exception statistique, je vous l'expliquerai pourquoi, mais on ne m'avait jamais, par exemple, parlé de mécréant et de cette dissociation mécréant par rapport à musulman. Et donc, je n'ai pas appris à haïr les mécréants. Et donc, j'avais mes amis français de souche, comme on dit, ou non musulmans, ils avaient le droit de venir à la maison, etc. C'était vraiment une éducation ouverte et positive et constructive. Et donc, je n'ai pas appris à détester les mécréants. Ça a aussi de l'importance. Je me réveillais chaque matin dans un pays, la France, je ne me sentais pas comme dans un château assiégé, entouré d'ennemis sur un plan théologique. Parce que moi, je me dis, un musulman, ou même peu importe, quelqu'un en tout cas qui déteste la majorité d'un pays, au moins sur un plan religieux ou culturel ou théologique, il a l'impression de vivre dans une terre pleine d'ennemis, en fait. C'est surréaliste. Et moi, en tout cas, je n'ai pas eu ça. Pareil, on ne m'a pas bourré la tête avec « le diable, il peut parler dans ta tête et te faire les mauvaises actions. Allah, il surveille tout ce qu'il y a dans ta tête. Allah, il guide ton destin. » Et du coup, j'avais cette impression que ma vie m'appartenait, que je faisais mes propres choix, que j'étais pas, c'était pas Big Brother dans ma tête, c'était pas le Truman Show. C'était pas, c'est bête, mais un gamin musulman à qui on a dit depuis tout petit « Allah, il écoute tout ce qui se passe dans ta tête », il ne sait même pas ce que c'est l'idée d'intime conviction, l'idée que ses pensées lui appartiennent à lui-même. Il a appris que le diable le poursuit partout où qu'il aille. Je me dis, ça fait un cocktail explosif voilà, qui n'aide pas dans la vie. Et donc, moi qui ai été préservé de tout ça, et en parallèle, j'ai eu une excellente intégration dans la France. Par exemple, c'est tout bête, alors on va dire je confonds Maghreb et Islam, mais à un moment donné, il faut dire la vérité, la plupart des gamins d'origine tunisienne, algérienne, marocaine autour de moi, beaucoup, je ne sais pas quelle proportion, mais quand même une proportion anormale, souvent étaient de confession musulmane, effectivement, prétendaient depuis tout petit, beaucoup, ça me choquait, des gamins ou adolescents, détester la France parce qu'elle nous a colonisés, etc. Donc déjà, ils ont un rapport de détestation à la France. Moi, je ne l'avais pas. Moi, j'avais un rapport parfaitement sain à mon identité française, à mon amour pour la France. Et donc, je me suis vraiment épanoui. J'ai eu des excellents profs à l'école primaire, maternelle ou collège ou lycée qui m'ont appris vraiment des idées constructives sur la vie, c'est-à-dire il faut se poser des questions, il faut apprendre à douter de l'ordre établi, il ne faut pas croire n'importe quoi. Quand on assène des vérités, il faut donner des preuves. Tu ne donnes pas le résultat mathématique, non, tu dois construire tout le raisonnement mathématique pour arriver au résultat. Quand on ouvre nos manuels et qu'on a un lieu ou une vérité historique, un lieu, l'abysse laurentien, une vérité historique, je ne sais pas quel événement, c'est qu'on a des preuves historiques ou archéologiques ou scientifiques pour démontrer l'existence de ça. Et pareil aussi, j'ai eu une excellente éducation grâce aux livres de la bibliothèque. Il n'y avait pas Internet démocratisé en ce temps-là, mais en tout cas les livres de fiction ou les livres de science qui m'ont appris à adorer le progrès humain, le progrès scientifique, à ne pas voir l'humain comme un pêcheur, comme un faible, etc. Et également les œuvres de fiction, c'est très important, parce que moi je me suis identifié, et je vais répondre un peu plus précisément à votre question promis, je me suis identifié toute mon enfance à des héros occidentaux, hommes ou femmes, et les héros occidentaux, c'est quoi leur particularité ? C'est des gens qui vivent parmi des gens insouciants et dociles. Et le héros occidental, que ce soit un adolescent qui enquête, que ce soit un adulte, que vous voulez, en fait, il est un peu tout seul et il se rend compte que quelque chose ne va pas. Et il va enquêter, il va chercher la vérité. Il va chercher la vérité là où on lui dit « ne va pas chercher la vérité ici ». Il y va quand même. Et donc, j'ai appris à au moins détester, allez, j'ose dire détester, pourquoi pas, l'attitude de mouton docile qui dit « Non, faut pas chercher à réfléchir. Tu mets ton cerveau de côté et t'écoutes l'autorité. L'autorité a toujours raison. » Et le héros qui dit « Non, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. » Et à la fin, il résout l'enquête ou il sauve le monde. Et donc, imprégné de ça, acculturé à ça, ça fait que quand du jour au lendemain, on m'envoie à la mosquée sans prévenir, en fait, c'était trop tard. On se dit « Envoyer un gamin à la mosquée à l'âge de 8 ans, c'est tôt. » C'était trop tard pour moi. Parce qu'en fait, j'étais trop occidentalisé dans mon mode de pensée. Et j'ai aussi de la chance, j'ai eu un imam en parallèle des années 90, et ça a beaucoup d'importance. C'était un imam importé du Maghreb, parce que la France construit des milliers de mosquées et en plus importe des gens avec leurs mœurs archaïques de pays étrangers. Et en plus, cet imam, il assumait toutes les horreurs de l'islam. Ce qui fait que j'ai pu plus facilement sentir le contraste entre ce qu'il m'enseignait et ce que l'école française laïque m'enseignait en fait. Et cet imam, c'était en plus avant les attentats du 11 septembre 2001 dans les années 90, et ça a de l'importance parce qu'en fait, il n'y avait pas de smartphone à l'époque pour filmer ton imam à son insu et éventuellement montrer des preuves. Il n'y avait pas de réseau social pour faire un bad buzz. Il ne se pensait pas cet imam écouté par les renseignements généraux parce que c'était pré-attentat du 11 septembre 2001. Et cet imam s'est lâché et nous a dit toute la vérité islamique. En fait, il nous a dit toutes les horreurs islamiques. Donc plus facilement, j'ai pu m'en indigner. Également, les musulmans adultes autour de moi assumaient des raisonnements philosophiques limités qu'aujourd'hui ne tiennent pratiquement plus, parce que la société a évolué, pas seulement les musulmans. Par exemple, sans doute vous ne vous en rappelez pas du tout par rapport à votre jeune âge, mais même avant les années 90, je me rappelle, il y a encore 40-50 ans en France, il y avait cette idée de crime passionnel, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est-à-dire que c'était une circonstance atténuante, par exemple, si un mec tuait sa femme parce qu'elle l'aurait trompé. Et en fait, la plupart des gens, je ne pourrais pas dire quelle proportion, accepter plus ou moins tacitement cette idée. La société a évolué, aujourd'hui plus personne pense que ça c'est juste. Et bien de la même manière, les musulmans aussi ont pu évoluer, et moi j'ai le souvenir dans les années 90, quand je posais des questions sur des choses qui me paraissaient bizarres dans le Coran, c'était trop répandu des musulmans adultes plus grands qui disaient « Non, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. » Ou alors qui disaient « Arrête de poser des questions, sinon tu vas finir en enfer et sinon tu vas quitter l'islam, tu vas devenir un mécréant et aller en enfer. » Les musulmans de l'époque, imams de l'époque, de mon expérience à moi, encore une fois, facilement, ils te disaient, ouais, c'est écrit dans le Coran, les non-musulmans vont en enfer parce qu'ils ne croient pas en Allah. Aujourd'hui, allez dans la plupart des mosquées ou même la plupart des musulmans, demandez-leur simplement, mais il est bien écrit dans le Coran que les non-musulmans vont en enfer, ils bégayent. Alors, c'est plus compliqué que... Qu'est-ce que tu as ? C'est plus compliqué que oui ou non ? C'est l'information la plus citée dans le Coran. Et donc, moi, effectivement, peut-être j'ai une différence, je pense, pour répondre précisément à la question, par rapport aux autres enfants, parce qu'à la fois, je n'ai pas trop subi l'endoctrinement, je ne pourrais pas dire dans quelle proportion, parce que je ne suis pas dans le secret des foyers, de l'éducation des gens, mais à la fois, je n'ai pas trop subi une éducation qui m'a trop bourré la tête avec les concepts binaires, manichéens et violents islamiques. À la fois, on m'a bien appris à m'intégrer à la France, et à la fois, voilà, j'ai eu un contexte peut-être favorable, même si ça peut sembler ironique, c'est qu'un imam qui assume les horreurs de l'islam plus facilement vous révèle ce qu'aujourd'hui, peut-être plein de musulmans, pacifistes, des musulmans testicrousties qui ont une éducation, qui sont persuadés que l'islam est une religion de paix et de tolérance, parce qu'en fait, ils ignorent beaucoup de textes sacrés islamiques qui leur parlent du droit de l'esclavage, de coucher avec une captive de guerre esclave, que le prophète Mohammed a épousé une gamine de 6 ans alors que c'était un quinquagénaire, et leur imam tire à 4 épingles à la mosquée parce qu'il se sait virable à tout moment à la moindre phrase plus haut que l'autre, et ben il fait des prêches bisounours et positifs. Mais moi, le fait d'avoir plutôt assisté, étant gamin, à des prêches beaucoup plus radicaux, ça m'a permis effectivement de plus facilement me faire le contraste avec la France et sa culture et ses valeurs. Et je me suis rendu compte que non, je me sens plus occidental dans la culture occidentale qui reconnaît la liberté de conscience plutôt que la culture islamique qui criminalise la liberté de conscience en dehors de l'islam. Je préfère la culture occidentale qui veut des preuves scientifiques derrière tout pour asséner des vérités plutôt que la culture islamique qui me présente un bouquin magique plein de superstitions et juste des raisonnements circulaires. C'est vrai parce que c'est le prophète Mohammed qui l'a dit, donc c'est vrai. C'est vrai parce qu'Allah l'a dit, donc c'est vrai. Enfin, dire c'est voilà. Et donc finalement, toute mon enfance, j'ai cru à l'islam d'abord étant gamin par crédulité éducative. Et en fait, toute mon adolescence n'a été qu'une période tampon de plusieurs années à petit à petit remettre les pièces du puzzle, petit à petit interroger l'islam par rapport à la culture occidentale, petit à petit raisonner sur des dogmes islamiques qu'on m'a appris, et finalement l'âge de 18-19 ans a été la période durant laquelle tout ça aboutit, toutes ces réflexions ont abouti jusqu'à ce que je quitte l'islam. C'est peut-être ça ma différence, je pense, pour répondre à votre question, avec la plupart des autres gamins, je pense, autour de moi, qui ont été éduqués dans l'islam comme moi et qui persisteront à l'être même une fois passés à l'âge adulte.
Vous racontez avoir voulu à un moment devenir un meilleur musulman, plus pratiquant et cohérent. C'est en plongeant dans les textes que vous avez finalement tout rejeté. Pouvez-vous nous raconter ce moment de bascule ?
Il n'y a pas un moment avant et après, mais toute mon enfance n'a été qu'une accumulation de doutes sur plein de sujets. La morale, la science, la violence. Et peut-être il y a eu un petit moment charnière, effectivement, qui a accéléré un peu mes doutes. Ça a été, je le raconte dans mon livre, le contexte des attentats du 11 septembre 2001. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, moi déjà, j'aimais pas trop l'actualité des informations. Je parle pas de l'actualité politique, j'ai toujours eu un petit attrait pour la politique, mais vraiment l'information, par exemple, voir des adultes, quand j'étais gamin, en tout cas pas aujourd'hui, mais quoi que même encore aujourd'hui, voir des adultes qui allument la télé et en fait, ils se font la liste dans les infos de « Alors en Inde, il y a eu une crue, il y a eu des milliers de morts. Alors il y a eu une fusillade, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts. » Et en fait, je voyais beaucoup d'adultes qui regardaient les infos pour voir la liste des morts un peu partout dans le monde. Et je me disais, sans prétendre déifier d'autres périodes de l'histoire, genre l'Antiquité ou le Moyen-Âge, que c'est anormal en fait. On n'a pas à se réveiller le matin et avoir une espèce de pouvoir divin, allumer une boîte magique, et ça vous apprend là où il y a eu des morts partout. Peut-être parce que je suis quelqu'un d'empathique, c'est-à-dire qu'en fait, ça me peine de savoir qu'il y a des morts, et je n'ai pas à savoir en permanence tous les jours toutes les nouvelles, les plus mauvaises nouvelles de partout dans le monde. Je trouve ça vachement anxiogène, en fait. Et je n'aimais pas regarder les infos pour cette raison-là. Je trouvais qu'il fallait être dans un mood, dans un état d'esprit un peu positif et constructif au quotidien. Et tu n'as pas à regarder en permanence les infos. Il y a eu kidnapping d'enfants par-ci, mort par-là, tuerie de masse par-ci, par-là. Et j'ai jamais eu cet attrait-là. Mais avec l'actualité du 11 septembre 2001, c'était devenu complètement inévitable. C'était dans toutes les discussions, c'était partout. Là, vraiment, c'était complètement inévitable. Je raconte vraiment mon souvenir de je rentre à l'école un peu du jour au lendemain et j'allume ma télévision je vois une bande-annonce de film américain. Un peu bizarre, cette bande-annonce. Je vois un avion qui fonce dans une tour et je vois, au bout d'un moment, c'est toujours la même scène sous différents angles. Je me dis, tiens, elle est bizarre cette bande-annonce quand même de film. Je fais, putain, ils mettent pas. Enfin, c'est une bande-annonce un peu bizarre. On dirait qu'ils ont mis tout le budget dans la scène la plus impressionnante et réaliste de l'avion qui tombe dans la tour. Et donc, ils nous montrent sous les différents angles. J'ai compris, vas-y, montre-moi la scène suivante. Et en fait, je réalise que j'assiste pour la première fois, toutes les chaînes en parlent, voilà, à ce spectacle de au nom de ma religion d'alors, a été commis un attentat de grande envergure, l'attentat du 11 septembre 2001. Ensuite, c'est dans toutes les discussions. À l'école, dans la congrégation, etc. C'est un sujet inévitable. Et du coup, j'ai été obligé de m'interroger, est-ce que ma religion d'alors est vraiment violente et prône la haine et la mort envers des non-musulmans, et la violence même envers des non-musulmans innocents et non-violents? Ça a été un sujet qui m'a forcé à fouiller dans mes textes sacrés d'alors, non plus dans une perspective d'apprentissage un peu molle, si je puis dire, et un peu zombifié et robotique, mais vraiment une approche de curiosité, l'idée de se dire, bah voilà, je m'interroge vraiment sur le fond, les lois violentes, et ça m'a effectivement confronté à des textes du genre, bah voilà, le droit de la violence conjugale envers les épouses désobéissantes, l'esclavage, le fait de tuer à la guerre des mécréants juste parce qu'ils ne croient pas en la parole d'Allah, en le Coran. Et donc, ouais, effectivement, ça a été un moment charnière, mais il y a eu plein d'autres doutes sur plein d'autres sujets, parce qu'effectivement, je me suis interrogé, j'en parle beaucoup dans mon livre, vraiment, des sujets divers et variés. Par exemple, quand vous comprenez en grandissant, je vous donne juste un exemple pour un peu m'excentrer de cette question, mais enfin, en tout cas, centré sur le sujet de la violence, mais par exemple, moi, quoique ça a un rapport avec la violence quand même, l'idée qu'on m'apprend depuis tout petit, et encore plus à la mosquée, que dans l'au-delà, après la mort, il y a le paradis éternel pour les musulmans et l'enfer éternel pour les non-musulmans, effectivement, c'est un peu anxiogène comme info, et vous vous dites, en tant que gamin, bon, ok, j'ai un rapport chantagé à ma foi, mais quand je grandis, adolescent, de plus en plus, je me pose des questions, je pose les questions qui dérangent les grands et les adultes autour de moi, et je commence à réaliser un truc en me renseignant sur l'histoire. C'est vraiment une preuve que c'est le savoir aussi, loin de l'ignorance, qui m'a libéré de l'islam. Je commence à me rendre compte que 99% des musulmans que je croise ont des parents musulmans, et que 99% des non-musulmans ont des parents non-musulmans. Donc apparemment, le hasard de la naissance va décider si vous serez musulman ou pas. Et donc, Allah a voulu dans l'au-delà que ce soit le hasard de la naissance qui pratiquement va déterminer si vous finirez à rôtir en enfer, torturé, ou au paradis. Mais quelle religion injuste! Moi, si je vous apprends demain qu'il y a un pays dans le monde où 99% des riches ont des parents riches, 99% des pauvres ont des parents pauvres, vous allez me dire que c'est un ordre économique injuste de reproduction sociale qui enferme les pauvres dans la pauvreté et enferme les riches dans la richesse. Vous remplacez juste la donnée économique par la donnée religieuse, vous obtenez l'islam en fait. C'est vraiment injuste. Et même pareil, je l'ai expliqué notamment dans un de mes autres livres, je réalise que l'islam né au 7e siècle, on est au 21e siècle, durant 90% du temps d'existence de l'islam, jusqu'en l'an 1900, avant le début de la mondialisation, c'est-à-dire la libre circulation des humains, des informations, notamment avec la télévision, la radio démocratisée et l'informatique, parce que les musulmans d'aujourd'hui, ils vous disent « ma religion est universelle ». Oui, c'est facile maintenant, avec l'informatique, avec tout ça, avec les échanges humains, de vanter que ton Coran, il se retrouve facilement dans chaque pays du monde, dans l'informatique de chaque bibliothèque ou de chaque librairie du monde, etc. Mais durant 90% du temps d'existence de l'islam, de la mort du prophète Mohammed au 7e siècle jusqu'en l'an 1900, il y a eu au maximum 15,98% de musulmans sur Terre concentrés géographiquement autour d'une ère en rapport avec l'islam. En gros, plus vous naissez loin de la terre de l'islam, au Japon, sur le continent américain, où la première mosquée est arrivée qu'en l'an 1902 quand même, ou en Australie, ou en tout cas dans les terres les plus éloignées, en Écosse, plus vous naissez loin de l'épicentre islamique d'origine, plus la probabilité que vous soyez musulman est quasi inexistante. Comment voulez-vous, dans des temps moyenâgeux où des gens se prenaient des baffes de forains pour un rien, pour une raison culturelle, comment vouliez-vous tout d'un coup vous convertir à l'islam, genre, je ne sais pas, au Japon du XIIIe siècle? Même si, par je ne sais quel miracle, vous arrivez à acquérir un Coran, vous êtes au milieu du Japon, mais vous allez finir brûlé, vous allez finir pendu si vous avez envie de vous mettre à... C'était impossible. En fait, dans les temps moyenâgeux, chacun là où il naît, il est obligé culturellement d'obtempérer à sa culture ou à la religion de sa famille, de son gouverneur local ou de la religion ambiante locale. Donc en réalité, c'est que moderne, l'idée de religion un peu diffusée un petit peu partout. Et moi, j'avais conscience de ça, vraiment, étant adolescent, j'avais compris ça. Je me suis dit, mais en fait, en réalité... Tous ces mécréants, millions de mécréants entre guillemets, hein, du point de vue du paradigme islamique, sur le continent américain, il y a des centaines de millions qui vont rôtir en enfer, qui sont païens polythéistes, mais ils n'ont jamais entendu parler de ton islam où la première mosquée, je crois, sur le continent américain est arrivée en 1902. Donc statistiquement, naître chez des musulmans, en plus il n'y a même pas de mérite intellectuel, t'obéis à une religion depuis gamin qui te menace, t'es lié à un chantage. Tout ça, j'étais capable de le comprendre étant adolescent. Alors évidemment, j'ai mis petit à petit, je l'ai mis avec des mots plus balbutiants, pas avec mes mots ultra précis d'écrivain et de vidéaste que je suis aujourd'hui. Mais tout ça fait partie d'une réflexion, ça, plus le sujet de la... Finalement, c'est relié à la violence, comme je le dis, voilà. Mais je pense que c'est vraiment tout ça. Mais c'est vrai que les attentats du 11 septembre 2001 m'ont un peu forcé davantage à m'intéresser à d'autres contradictions et d'autres textes violents et ont accentué effectivement ma réflexion sur ça.
Vous dites ne pas avoir voulu d'un islam à la carte. Quelle partie du Coran ou de Hadith vous ont paru définitivement inacceptables ?
Déjà, l'interdiction de la liberté de conscience, c'est tout bête, mais pour moi, et ça explique même beaucoup de choses, même les débats sur le vivre ensemble et l'intégration aujourd'hui. Comment vous voulez intégrer une idéologie, une religion qui criminalise la liberté de conscience ? Même dans le monde occidental, en Europe, et pas seulement dans le domaine politique, mais même dans le domaine social, dans le domaine, même des sciences de façon indirecte, l'idée de tolérer que vous partagez un territoire avec des gens qui ont une autre approche, peu importe ce que c'est, mathématiques, scientifiques, culturelles, religieuses, tu serres les dents, même si ça t'insupporte, c'est déjà ça qui crée une société un minimum prospère et pacifiée, en fait. C'est de supporter que des gens pensent différemment. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui sont persuadés, ils se disent, j'en ai rencontré tellement dans ma vie, les mécréants nous détestent, les Français, déjà ils s'extériorisent de la France en disant les Français nous détestent, ou alors, en tout cas ils disent... les mécréants, enfin ils se plaignent par exemple que des non-musulmans détestent l'islam. Mais ta phrase, elle n'est pas complète. L'islam déteste les mécréants. L'islam condamne à mort les ex-musulmans, condamne à l'enfer éternel les mécréants. Donc pourquoi tu dis les mécréants détestent l'islam ? Non, ta phrase est incomplète. Les mécréants détestent l'islam qui les déteste. Ah ben c'est pas la même chose, excuse-moi. Je déteste pas un humain, je déteste le mec qui m'a volé. Vous voyez, ça inverse totalement le paradigme de la victime et du coupable. C'est quoi votre question, pardon, excusez-moi.
Dans le livre, vous revenez sur les règles strictes de l'islam qu'on doit obéir sans discuter. Quelles étaient concrètement les injonctions
à... Ah oui, effectivement. Oui, d'abord, effectivement, cette idée de criminalisation de la liberté de conscience, pour moi, c'est intenable et ça fait tout. Et donc, ça, c'est une valeur très certaine. Également aussi... l'égalité en droit et en liberté entre les hommes et les femmes. Même si moi, je suis un homme, j'avais conscience que le hasard de la naissance aurait pu me faire naître femme, et je trouve ça injuste, le droit à la violence conjugale des maris musulmans envers leurs épouses, sourate 4, verset 34. Et en fait, c'est pas parce que je suis un homme que je dois me dire, bon, heureusement, je suis du bon côté de la main, enfin, je suis du côté de la main et pas du côté de la joue, si je puis dire. Non, je raisonnais pas comme ça, et ça me semblait complètement injuste. Également la violence à motif religieux, des châtiments corporels dans le Coran, par exemple, donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, sourate 24, verset 2. Pour moi, ça me semble extrêmement barbare. Et même au-delà du fond, c'est même la forme. Parce que quand je découvre ce genre de verset, Allah dit qu'il faut donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Il n'explique rien des conditions de cette peine, en fait. T'as pas expliqué la distance minimale ou maximale entre le fouettard et le fouetté. T'as pas expliqué quelle partie du corps on peut fouetter ou ne pas fouetter. T'as pas expliqué les matières autorisées ou interdites pour le fouet. T'as pas expliqué la force maximale ou minimale pour le fouet. Donc pour moi, un dieu du 7e siècle qui me dit « administre 100 coups de fouet », enfin pour moi c'est évident, c'est une loi tellement peu encadrée sur la forme et techniquement, que potentiellement je peux donner un fouet à un champion olympique de javelot, mais il va tuer la personne au bout de 50 coups de fouet, tellement il a un bras surpuissant. Bah oui, parce qu'Allah, il a été indigent dans sa façon de décrire, il a dit « donne-leur 100 coups de fouet ». C'est quoi cette phrase? C'est quoi la différence entre ça et un mec bourré à coudé à un bar qui veut me donner un conseil avant une bagarre et qui me dit « t'es fous deux claques dans la gueule à celui-là ». Je vois pas la différence en termes de précision technique. Ça a l'air tout bête, mais la décrédibilisation de ma part de la précision technique du Coran, même dans les châtiments corporels, m'a aussi aidé à tomber de haut, si je puis dire, et à juger que, clairement, ce n'était pas un message de l'esprit le plus intelligent et supérieurement intelligent de tout l'univers. Allah, pas du tout. Ça se voyait que c'était un bédouin du 7e siècle ou des bédouins qui se sont mal exprimés à travers... Donc, je dirais, pour être un peu méchant, il n'y a que deux choses qui m'ont dérangé dans le Coran. Le fond et la forme, c'est tout. À part ça, c'était génial. Non, je plaisante.
Vous parlez des leçons de l'imam qui diabolisait le cinéma, les dessins, les statues, les anniversaires ou la mixité. Pouvez-vous nous donner des exemples précis de ce qu'il enseignait et de l'effet que cela produisait sur vous ?
Ouais, bah effectivement, en fait, le premier imam que j'ai eu dans des cours d'initiation à la religion pour enfants parmi d'autres enfants, il avait conscience qu'il était devant des enfants encore trop victimes de l'Occident potentiellement. Et effectivement, moi, ça m'a choqué quand, dès le début à la mosquée, il nous explique, à moi et à tous les autres gamins de l'assistance, que tous les loisirs occidentaux qu'on a appris à aimer, eh ben, en fait, c'était interdit dans l'islam. Il nous explique que la représentation picturale d'être vivant est interdite. Donc ça veut dire les caricatures, les BD, les peintures de musées, tout ce que j'adore. J'adore les musées, j'adore les BD, tout ça c'est interdit. C'est horrible pour un gamin. Les statues, effectivement. Il nous explique que les instruments de musique sont interdits. Mais les instruments de musique, c'est plein de choses. C'est à la fois la musique comme loisir, un loisir universel d'ailleurs. Comment on peut diaboliser un loisir aussi universel et aussi inoffensif que la musique? Mais c'est aussi la musique de fond qui accompagne les films à la télévision, du coup. C'est la musique dans un jeu vidéo, c'est, voilà, il y a de la musique un peu partout. C'est également la mixité homme-femme, la mixité garçon-fille, même si c'est un simple spectacle à la télévision, une série ou un film qui présente un garçon et une fille qui se parlent, qui discutent ensemble, surtout si la fille est une mécréante dévoilée, encore plus. Donc, il diabolise même indirectement la télévision. Et les anniversaires aussi, et le jour de l'an, et Halloween, parce que toute fête non-islamique également était interdite. Et tout ça, effectivement, il se basait sur les hadiths et le Coran. Et donc, on tombe de haut quand on est un gamin acculturé à l'Occident. Tous les loisirs que les gamins aiment, anniversaire, discuter avec des copains, copines à la récréation, les instruments de musique, le dessin, tout ça, c'est interdit. C'est terrible pour un gamin d'apprendre ça. Et j'avais vraiment l'impression, plus je m'instruisais à l'islam, enfant, puis adolescent, qu'en fait, l'islam, c'est un puits sans fond à interdit, en fait. À un moment donné, je me suis fait le constat un jour, je me suis dit, mais on passe notre temps à apprendre des rituels, des obligations, des interdits, et l'Occident passe son temps à m'apprendre des opportunités, des libertés. À un moment donné, c'est quoi ma liberté que j'ai droit en plus dans l'islam, à part avoir le droit d'avoir plusieurs épouses et d'avoir des esclaves, et je ne peux pas en plus les appliquer en France. À un moment donné, c'est terrible, en fait. Et voilà, donc effectivement, il vous apprend ça, et il vous apprend aussi quelque chose. Ça me fait peut-être revenir sur un propos que j'ai eu tout à l'heure en interview, mais c'est aussi une façon d'instruire. Par exemple, je l'explique beaucoup dans ce livre notamment, parce que vraiment je compare tous les aspects de mon éducation à l'occidentale dans mon enfance et adolescence avec également des aspects de l'islam, et je compare les deux. Et notamment, j'explique à un moment donné dans ce livre que, par exemple, depuis tout petit, nous les enfants, on nous apprend par exemple que on ne peut pas écouter n'importe quel adulte qui nous raconte n'importe quoi. On est au bac à sable, un adulte qui nous dit « viens, suis-moi », qu'on ne connaît pas, « viens, suis-moi à tel endroit ». En fait, on doit se méfier des affirmations gratuites des gens. Il doit y avoir un minimum de preuves, etc. Et quand ensuite je vais à la mosquée, fort de cet état d'esprit de méfiance et de preuves à minimum, et que l'imam nous montre le Coran en nous disant « alors, tout ce qui est écrit dans ce bouquin, c'est la vérité, et c'est interdit de le discuter », c'est plus du tout le même paradigme relatif au savoir. On est dans l'idée d'interdiction de douter et de critiquer quelque chose, un savoir sacré, alors que l'Occident m'avait appris au contraire la pluralité des opinions, l'idée de critiquer des idées philosophiques différentes, l'idée même de thèse, antithèse, synthèse, c'est ce qu'on nous apprend dans nos parcours scolaires, c'est pour dire que toute idée est questionné, et interrogé et critiqué par une idée totalement contraire, et peut-être que la vérité est dans un entre-deux. Et moi, j'apprends ça dans mon cursus de l'école publique française. Et à la mosquée, c'est « si tu ne crois pas en ce qui est écrit dans mon bouquin magique, tu vas en enfer ». Donc c'est un rapport chantagier au savoir, en fait. Ce n'est pas du tout le même paradigme. Et je devrais presque remercier, entre guillemets, cet imam d'avoir été si horrible, parce qu'encore une fois, il a pu m'aider à établir le contraste entre mon éducation occidentale et mon éducation islamique. Je suis vraiment persuadé que d'avoir eu un imam aussi horrible a aidé à fonder les bases de mes doutes par rapport à l'islam, des doutes croissants et cumulatifs.
Au-delà des textes, quelle était la pratique quotidienne de l'islam qui vous pesait le plus quand vous étiez adolescent ?
En fait, les pratiques de base que la plupart des Français non musulmans connaissent, en tant que telles, ce n'est pas forcément un problème. Parce que par rapport aux standards moraux humanistes des lois occidentales, ne pas manger de porc, ce que vous connaissez sans doute de la pratique de l'islam, c'est comme une allergie sélective, on va dire. Faire la prière, et encore, faut la faire aux bons horaires. Ça, je reconnais que c'est un peu exigeant. Mais c'est comme faire du stretching en djellaba 5 fois par jour sur un tapis en direction de la Mecque ou d'Ajaccio, si vous voulez, par rapport à la métropole. Le ramadan, c'est comme un jeûne intermittent 1 mois par an, qui consiste à ne pas manger pendant que le soleil luit dans le ciel 1 mois par an et à se goinfrer le soir. Et croire en Allah, c'est juste une activité de l'esprit, ça n'a pas d'impact sur le monde extérieur. Par contre, moi, ce qui me dérangeait, ce qui m'intriguait, ce qui me travaillait l'esprit, c'était plutôt toutes les superstitions dans l'islam. Je raconte vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples, mais c'est complètement insupportable. Par exemple, je grandis avec l'idée qu'il y a un ennemi, le diable, mais comme on n'en avait pas trop parlé étant petit, longtemps, je me suis demandé si le diable, ce n'était pas une métaphore des mauvais côtés humains, en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, je pose la question à un imam qui me dit « Non, non, c'est une créature réelle. Et non, non, le destin d'Allah est réel. Et il a vraiment écrit toute ta vie de A à Z. D'accord, ben pourquoi on me responsabilise dans l'au-delà, en fait, avec l'enfer et le paradis? Pourquoi on m'interroge sur mes actes, alors qu'apparemment, le diable me fait faire mes mauvaises actions? Et apparemment, Allah, c'est lui qui a écrit mon destin de A à Z, ça n'a strictement aucun sens. Donc ce genre de contradiction, l'idée de « attention, il y a des djinns qui nous menacent ». Alors d'abord, la plupart des musulmans croient en les djinns, ou en tout cas quand j'étais gamin, voilà, ils croyaient en les djinns autour de moi. Tout le monde a entendu parler des djinns, mais c'est jamais lui-même qui l'a vécu. C'est un cousin d'une tante, du voisin, du chat, de l'animateur télé qui a vu un djinn, en fait, depuis le bled. Jamais personne n'a constaté un djinn, mais c'est « j'ai une tante qui a une voisine qui a vu un djinn ». Ensuite, le djinn, elle l'a vu soit dans son sommeil, donc à une période où on n'est pas très lucide, soit dans le noir, la nuit, dans un endroit pas très bien éclairé. C'est un peu suspect. Et surtout, 100% des gens qui se plaignaient d'envoûtement de djinn avaient pour point commun de croire en l'islam. Un peu bizarre quand même. Pourquoi les non-musulmans ne croient pas en les djinns? Apparemment, les djinns, votre ignorance non convictionnelle à leur égard les effraie apparemment. Le meilleur moyen de se prémunir des djinns, c'est de pas y croire en fait. Ça, c'est le remède le plus efficace. Bon, je trouvais ça bizarre. Il y avait plein de dingues, plein de choses bizarres. Même cette idée d'Allah, il exauce les vœux des musulmans. Moi, je me rappelle un jour d'un prêche d'un imam qui nous dit, c'était le deuxième imam que j'avais rencontré dans ma vie, pas le premier, qui nous dit « c'est Allah qui vous guérit ». Et moi, je dis « d'accord, et le chirurgien qui a besoin de m'opérer à l'hôpital ?» Ouais, mais c'est Allah qui guide les instruments. Je ne sais pas comment il me dit ça. C'est Allah qui fait que le chirurgien, il te guérit, mais c'est quand même par la volonté d'Allah. Moi, je rentre sur le chemin à retour. Je dis, c'est complètement idiot. Un musulman qui a un accident de bagnole dans un désert complètement isolé, qui a les jambes broyées dans la carcasse de sa bagnole, bizarrement, Allah, il ne va pas l'opérer, tu vois. Vous voyez. Par contre, le musulman qui a un accident, il y a l'intervention d'un mécréant au volant d'une ambulance mécréante, qui a réussi à passer un appel avec la technologie du téléphone mécréant pour amener le musulman dans un hôpital mécréant pour qu'il se fasse opérer par le chirurgien mécréant, bizarrement, elle a plus envie d'exaucer le vœu de guérison de ce musulman. C'est bizarre. Pour regarder les statistiques à échelle mondiale, en tout cas, c'était très accentué à l'époque. Aujourd'hui, il y a eu un peu même une mondialisation, si je puis dire, des technologies hospitalières, etc. Et même encore dans les années 90, début des années 2000, je constatais que l'espérance de vie dans les pays occidentaux était très largement supérieure à l'espérance de vie des musulmans en terre d'islam. Apparemment, là, il n'a pas trop envie d'exaucer le vœu de bonne santé de la plupart des musulmans. C'est un peu bizarre. Même, j'en fais une remarque, c'est une remarque avec mes mots d'enfant et d'adolescent à moi, je l'explique dans ce bouquin. Je remarquais, étant adolescent, que les plus belles jeunes femmes musulmanes arrivaient facilement à trouver un époux, tandis que les moins belles galéraient à trouver un époux. C'est bizarre, toutes les jeunes femmes musulmanes, j'avais remarqué étant gamin, en Algérie ou en France, autour de moi, dans ma communauté, prient Allah pour avoir un époux. Apparemment, celles qui accèdent le plus facilement au vœu d'avoir l'époux de leur rêve, qui est beau, qui leur plaît, ou peu importe la situation dans laquelle il est, c'est les femmes les plus belles. C'est quoi en fait ? Allah, il exauce le vœu des belles jeunes femmes musulmanes, et la femme musulmane qui ressemble à Quasimodo, qui a une tête complètement de travers, qui n'est pas dans les standards de beauté esthétique, j'exagère volontairement, voilà, je fais un peu d'humour. Bizarrement, Allah, il a moins envie d'exaucer. Pourquoi ? Parce qu'elle est laide, elle serait moins pieuse. C'est tout bête, mais c'est toutes ces réflexions en fait qui m'ont construit vraiment mes doutes petit à petit. Voilà, c'est ça, c'est également... voilà, enfin, essentiellement, c'est, je vous dis, c'est des réflexions de tout ordre sur plein de choses, sur le fond, sur la forme, sur la fin, sur les moyens. Moi, j'avais remarqué une différence béante entre les prétentions islamiques et les résultats, notamment en terre d'islam. J'avais remarqué une différence entre ce que l'islam promettait, prétendait, et la réalité de l'islam. C'est aussi ça qui m'a aidé, je pense, à participer à mon apostasie vis-à-vis de mon ancienne religion.
Au-delà de votre travail de critique intellectuelle et de vos vidéos, quelles solutions politiques concrètes proposez-vous pour empêcher une islamisation progressive de la France ?
Alors, moi, je suis quelqu'un de réaliste. Et en fait, même si je sais que l'islam est un danger en France, je me base sur la réalité du terrain. La réalité du terrain culturel, social, politique, c'est inaudible. Inaudible pour un président actuel ou un futur président, ou même pour la plupart des chefs d'État dans le monde, dans un monde où il y a presque une cinquantaine de pays islamiques, dans un monde où 25% de la population mondiale est islamique et ça ne fait que croître, dans un monde où il y a une dizaine de millions de nos compatriotes de confession musulmane, c'est inaudible qu'un politicien dise « l'islam est un danger, on n'empêche dorénavant l'islam de rentrer dans notre pays ». Populationnellement, on ferme toutes les mosquées les unes à la suite des autres, je sais que c'est inaudible. Je pense néanmoins qu'il y a un moyen de lutter contre l'islamisation de la France de manière beaucoup plus intelligente et même morale, si je puis dire, sur différents axes, par rapport à la criminalité, par rapport à l'immigration et par rapport tout simplement à la culture, au savoir. Je vais faire les choses dans l'ordre. Et je vais essayer de proposer des idées un petit peu originales par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ce qui dérange la plupart des gens avec l'islam, les gens assez intelligents en France, vous en faites partie, je suis sûr que beaucoup de gens font partie, c'est avant tout des actions. C'est pas spécialement que le gars, il croit que son prophète Mohammed, il a chevauché un âne volant une nuit, parce qu'il est persuadé dans sa tête que faire son jeûne intermittent de un mois chaque année basé sur le soleil, on s'en fout. Dans l'absolu, ce qui nous dérange, c'est des comportements criminels, des comportements concrètement qui s'opposent à nos lois, des comportements de racaille, des comportements de terrorisme, c'est ça qui nous dérange, c'est des comportements criminels et violents. Moi, je suis pour que demain, la France devienne un État extrêmement sévère envers les criminels, parce que ça va écrémer déjà, dans nos rues, toute confession confondue. C'est pas seulement les musulmans, d'une manière générale. Ça va retirer de nos rues tous les gens qui posent problème parce qu'ils se comportent mal. Moi, pour moi, un criminel, à un moment donné, c'est rare statistiquement d'arrêter un criminel, et de par le fait que ce soit rare et qu'actuellement ce soit un paradis pour les criminels, la France, il faut être encore plus sévère dorénavant avec les criminels, il faut littéralement les mettre hors d'état de nuire. Les criminels violents, récidivistes, une seule récidive, moi je les enferme très très longtemps en prison, pendant des décennies, voire même à vie, et on va me dire, oui mais imagine, il n'y a pas assez de prisons en France, il y a des lois, avec le juge d'application des peines, qui réduit les peines normales. Moi, je suis pour supprimer la mention « jusqu'à 3 ans et 45 000 euros d'amende ». Non, il est coupable, la peine incompressible. Des peines beaucoup plus lourdes, doublées, triplées. On n'a plus de place de prison, pas de problème. Moi, je veux un candidat qui me dit « j'ai passé des accords avec la plupart... » Un prisonnier en France, il nous coûte, je sais pas, 4 000 euros par mois ou des milliers d'euros par mois. J'ai passé des accords avec des pays du tiers-monde. Ça va nous coûter pratiquement que dalle par rapport à ce que ça nous coûte ici. On vous garantit que 100% des gens condamnés en France, ils iront dans une prison, façon Bukele ou façon ce qu'on veut, on s'en fiche, ils iront très très loin. La France, elle a une île qui s'appelle l'île de la Possession, une île complètement vide. Elle est à presque 3000 km de l'Afrique, au sud-est de l'Afrique. Tous les, soit criminels, soit clandestins qu'on n'a pas pu virer, parce que les clandestins, pourquoi on ne peut pas les virer ? Leur pays d'origine n'en veulent pas. Ok, on s'en fout de ce problème dorénavant. Criminels, peu importe qu'ils soient 100% français de souche ou d'origine étrangère ou clandestin qui a commis des crimes, en tout cas, il va là-bas, il va en Guyane, on peut mettre des millions de gens, on n'en a rien à foutre. L'idée, c'est symbolique, c'est de dire, dorénavant, vous ne faites plus partie de notre espace. C'est symbolique, il y a une énorme frontière entre vous et nous. À force, ça va dégager tous les gens qui posent problème, racailles, terroristes, criminels. Ça va inclure les mauvais musulmans qui, en plus, donnent une mauvaise image de leur communauté. Restera déjà que les musulmans dont on ne doute pas qu'ils sont des citoyens normaux qui se comportent bien, qui sont au moins pacifistes. C'est le minimum qu'on demande. Deuxièmement, l'immigration. C'est inaudible de dire aujourd'hui, par exemple, on verrouille l'immigration aux pays islamiques. C'est inaudible, je pense. C'est très compliqué. Moi, demain, je propose un système de trois tiers, par exemple. Elle dit, le premier tiers, on garde cette immigration normale qui, en soi, ne pose pas problème. En général, c'est l'immigration, je ne sais pas, vietnamienne, suisse, norvégienne, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une immigration qui ne jette même pas l'opprobre sur l'immigration en général, sur les débats sur l'immigration. Deuxième tiers, qui déjà ont des taux de criminalité un peu plus élevés et qui peut-être nous coûtent un peu plus. Même si les tiers ne sont pas, les taux de criminalité ne sont pas aberrants, mais ils ne sont pas dans le premier tiers, donc par définition, eux, on restreint un peu plus l'immigration. Et enfin, le dernier tiers des pays du monde qui nous font venir des gens qui ont le plus haut taux de criminalité et qui nous coûtent de l'argent, on quasi verrouille l'immigration. C'est très très rare qu'il y ait des immigrants qui viennent chez nous. Seulement demain, devant la communauté internationale, devant l'ONU et les pays islamiques qui disent « Vous croyez qu'on n'a pas compris où vous voulez en venir ?» Comme par hasard, c'est les pays musulmans les plus criminogènes du monde, du coup, vous avez verrouillé l'immigration auprès d'eux. Moi, je dis non, de quoi vous nous parlez? On a un pays qui a un problème avec sa criminalité. On verrouille l'immigration de pays qui nous ramènent le plus de criminels. Dorénavant, il y en a très peu et c'est à vous de choisir les meilleurs que vous nous envoyez et d'espérer remonter dans le classement du deuxième tiers. Et du coup, c'est plus audible de dire ça comme ça. Pareil, pourquoi je mets l'aspect financier? On va me dire, mais Majid, c'est du malthusianisme, vous voulez virer les pauvres, etc. Non. La France est déjà endettée de 3500 milliards de dettes. Moi, je suis agnostique, mais bien charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit s'occuper de nos propres pauvres. On a des centaines de milliers de mal logés, de sans logis, de gens qui dorment dans leur bagnole. Priorité à nos pauvres. On ne peut pas faire venir des centaines de milliers de gens chaque année qui viennent d'une immigration humanitaire, si je puis dire, qui a plus besoin qu'on lui trouve un logement et un emploi. Priorité à nos propres pauvres. Donc, c'est aussi une raison qui fait qu'on doit aussi verrouiller l'immigration. Ces deux arguments tels que je vous les ai présentés, c'est complètement moral, ça passe en fait. Tandis que si aujourd'hui vous n'êtes pas très habile, mais en réalité, moi je suis quelqu'un d'honnête, c'est-à-dire, j'en veux pas un musulman qui croit en ce qu'il veut. Et je vais vous expliquer le troisième aspect qui selon moi me semble important, l'aspect intellectuel. Un musulman, il croit ce qu'il veut, je m'en fiche. Moi-même, je suis un apostat persécuté par cette religion qui me criminalise. C'est pas derrière pour faire la même chose envers les musulmans, je suis obligé d'être cohérent. Mais j'ai constaté que, vu que ce qui dérange avec l'immigration islamique, c'est des gens parmi eux, peut-être une minorité, mais quand même un nombre non négligeable qui pose des problèmes et qui crée de la criminalité, à un moment donné, il faut aussi que ces pays nous envoient, déjà dans des quantités raisonnables pour des raisons économiques et sociales, mais également le mieux qu'ils aient, et encore, il faut que ce soit même validé par le peuple français, éventuellement par référendum. Moi, je commence à en avoir marre que ce soit fait dans le dos du peuple français dans lequel je m'inclus, évidemment. Voilà. Et le fait de faire ça comme ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ben, on ne peut pas verrouiller l'immigration islamique. Par contre, vu que moi, à la place des musulmans, je ne serais pas vexé par ce que je dis. Au contraire, je m'interrogerais, je commencerais à me dire, mais c'est bizarre. Pourquoi les pays islamiques sont les pays qui ont les taux de criminalité les plus importants dans le monde occidental? À un moment donné, interrogez-vous. Regardez, moi, je suis un Français d'origine algérienne. La disproportion du taux d'incarcération des Algériens en France, ça me fait chier aussi en termes d'image, déjà pour la nuisance qu'ils créent. C'est quoi les excuses? C'est la France nous a colonisés? C'est ça votre excuse? Casser des abribus, c'est parce que la France vous a colonisés? Toute cette criminalité, cette délinquance, cette surreprésentation, d'accord. Et les taux de criminalité anormalement élevés de la diaspora algérienne au Portugal, en Italie, en Suisse, en Allemagne et en Suède. C'est quoi en fait? C'est à cause de la colonisation suédoise du roi Harald qui a piqué le blé de Taman Rasset pour faire des Chris Prolls? Non, ou peut-être qu'il y a, dans la criminalité, peut-être en partie, il n'y a pas que des raisons économiques, peut-être il y a un petit peu des raisons en termes de mœurs et en termes de culture. Peut-être que si vous avez été habitué à une religion, évidemment, à échelle macroscopique, je sais que la majorité se comporte bien, j'ai bien compris, mais habitué à une religion qui vous apprend à détester les mécréants, ben peut-être que sur beaucoup de gamins qui ont vraiment un problème mental sévère pour des raisons culturelles, peut-être ils ont moins de scrupules à péter le pays de mécréants. Peut-être ils détestent ce pays. Peut-être si tu les as déresponsabilisés de leurs crimes en leur apprenant que c'est Allah qui a écrit leur destin et que c'est le diable qui leur fait faire leurs mauvaises actions, Peut-être ils dépersonnifient leur rapport à leur propre crime. Peut-être que si tu leur as appris plus ou moins consciemment à haïr les mécréants, qui sont des criminels qui méritent d'aller en enfer dans l'islam, peut-être ils ont moins de scrupules à taper des mécréants à 10 contre 1. À un moment donné, interrogez-vous sur tout ça. Tout ça, c'est un débat un peu tabou. Mais moi, je dis, il faut s'interroger sur ça. Mais oui, l'intégration, en fait, c'est plus difficile à mesurer que des crimes comme, par exemple, l'intégration, c'est pas un crime, attention, je voulais dire le manque d'intégration, mais c'est plus difficile l'intégration à mesurer que, par exemple, des données comme un crime, comme par exemple, comment ça s'appelle, un excès de vitesse, par exemple. Un excès de vitesse, c'est simple. La route est limitée à 90, vous avez roulé à 110, c'est mesurable par un appareil des gendarmes, c'est objectif. Par contre, l'intégration, c'est plus dur à mesurer. Comment vous voulez mesurer des gens de confession musulmane pas intégrés, de gens intégrés? C'est quoi comment vous voulez voir la différence entre trois hommes barbus en djellaba dans la rue, musulmans, qui parlent entre eux par affinité culturelle, parce qu'ils aiment une affinité culturelle, de trois hommes barbus en djellaba qui parlent entre eux et qui restent entre eux par détestation des mécréants à l'extérieur? Vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous ne pouvez pas lire dans la tête des gens. Est-ce que l'intégration, c'est ne pas vouloir être ami avec des mécréants? Et si un Français d'origine portugaise, il est solitaire, il fait son boulot chez lui, enfin à l'extérieur, ensuite il rentre chez lui, joue aux jeux vidéo, il n'a pas envie d'être ami avec ses voisins, il est juste solitaire, c'est tout. On peut dire qu'il ne s'intègre pas, si je puis dire. Parce qu'en fait, la première preuve d'intégration de quelqu'un issu de l'immigration, selon moi, au point où on en est arrivé, la France actuellement qui est dans une bordélisation sur tous les plans, c'est juste qu'un immigrant ne fasse chier personne et s'assure que ses enfants ne fassent chier personne. On ne s'interroge pas sur le degré d'intégration des Français d'origine asiatique qui vivent à Belleville, qui restent qu'entre eux, qui parlent entre eux. Pourquoi? Parce que leurs enfants travaillent bien à l'école. Ils ne font pas errer leurs enfants dans les rues le soir. Ils n'agressent pas les femmes dans la rue, en meute. Ils ne sont pas en surnombre dans les prisons. Ils n'agitent pas des drapeaux de leur pays à chaque fois que leur pays d'origine a gagné un match de foot ou a perdu ou a fait match nul. De toute façon, le résultat, d'autres s'en fichent, c'est le prétexte. Voilà, c'est juste ça, en fait. Il faut s'interroger sur tout ça. Et un troisième aspect aussi intéressant, selon moi, qui peut aider à limiter l'influence de l'islam et obliger à infléchir une tangente, au-delà de l'aspect criminalité et culture, et immigration, pardon, c'est l'aspect culturel. Effectivement, oui, si demain, mes idées plus rentrent dans la gueule de l'islam étaient représentées, étaient au pouvoir, etc. Il faudrait que ce soit plus démocratisé la culture de l'islam dans les discours à la télévision, dans les œuvres culturelles. Et ouais, ça obligerait les musulmans en fait en France, les musulmans pacifistes qui restent parmi nous, dans le plan de mon schéma où tous les criminels de toute confession ont dégagé, et ça inclut les mauvais parmi eux qui se comportent mal et qui en plus entretiennent la mauvaise image à la fois des musulmans et à la fois de l'islam, et ben derrière, ça mettrait un peu les musulmans face à leurs contradictions, le fait que vraiment ce soit systématique, que le maximum de la population française connaisse tous les aspects les plus sombres de l'islam. Il faut vraiment généraliser le fait de transmettre à toute la population le fait qu'ils sachent dorénavant que l'islam voulu par Allah dans le Coran et voulu par le prophète Mohammed dans les hadiths interdit la liberté de conscience. Peut-être que ça explique des problèmes d'intégration, des problèmes de communautarisme, comme on dit. Ça joue, je pense, quand même en partie. La violence envers les femmes. Allah, dans le Coran, autorise la violence conjugale envers les épouses désobéissantes à leur mari. Sourate 4, verset 34. Si demain tout le monde le savait, les musulmans pacifistes encore qu'on a parmi nous et que moi je souhaite instruire, si jamais ils s'intéressent à mon travail, évidemment, ils doivent se situer par rapport à ça. Ils ne peuvent pas esquiver le sujet. Le droit de l'esclavage également. De violer des captifs de guerre, toutes les superstitions islamiques que j'ai renseignées, dont j'ai parlé dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube ou dans mes précédents livres, tout ça, il faut leur mettre le nez dedans. À un moment donné, il va falloir qu'ils se situent par rapport à ça. Et je pense que tout ça, voilà, c'est un travail juste d'un point de vue moral, présenté ainsi. Je pense que c'est, si j'étais un politicien habile, c'est comme ça que je présenterais les choses face à l'islam. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Le plan que je dis est parfaitement cohérent. On veut virer, on a conscience du fait qu'on ne persécutera pas les musulmans et on n'en veut pas à des gens parce qu'ils croient en une religion différente. Ils croient en ce qu'ils veulent, on s'en fiche. Musulmans, pas musulmans. Juste, on en a marre des gens qui font des crimes et qui sont peut-être anormalement surreprésentés dans leur communauté. On veut dégager tous les criminels de nos sociétés. Déjà, on écrame une première fois, peu importe la confession. Deuxièmement, on a besoin de faire un audit par rapport à l'immigration. On peut plus se permettre d'avoir, avec notre pays surendetté à milliards, on doit déjà intégrer, aider nos propres pauvres, nos propres gens de bonne volonté qu'on a pu écrémer avec une bonne politique qui dégage de la société tous les gens qui se comportent mal, racailles, criminels, terroristes, tout ce que vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un état tellement laxiste, on est à deux doigts d'inventer le rappel à la loi avec sursis. Là, on en est à ce niveau-là de laxisme judiciaire en France. Et à la fois, enfin, c'est un aspect, je pense, culturel. Il faut vraiment que ça devienne mainstream, l'idée que la critique de l'islam, à travers l'humour, à travers la culture, à travers même le discours politique. Demain, il faut qu'un musulman... Aujourd'hui, un musulman peut facilement dire, par exemple, qu'il est musulman, qu'il fait le ramadan. Il devrait, à chaque fois qu'il est sur le point de dire qu'il est musulman dans l'espace public, s'il veut nous dire qu'il est musulman, donc par rapport à la laïcité, il s'autorise le droit de nous donner cette information, il devrait accepter l'idée qu'en contrepartie, la personne puisse aussi lui dire « Ah, t'es musulman, donc !» et lui donne la définition de l'islam. Donc, tu penses que le Coran est un livre divin, parfait et véridique ? Là, il est coincé. Si ce musulman dit oui, ok, d'accord, je vois le genre de personne que t'es. Donc, tu penses qu'une œuvre qui criminalise la liberté de conscience, c'est divin, parfait et véridique, d'accord. Tu penses qu'une œuvre qui autorise la violence conjugale envers les épouses désobéissantes, c'est une œuvre divine, parfaite et véridique, d'accord, je vois. Ok, une œuvre qui dit qu'il faut donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour. À force, les musulmans vont devoir à un moment donné se situer. Mais pour l'instant, je pense que la plupart des musulmans sont maintenus dans l'islam par la peur et l'ignorance. Et donc, il faut aussi un devoir d'instruction que je ne leur impose pas. Encore une fois, personne n'est obligé d'acheter mes excellents livres qui sont vendus notamment sur Amazon et personne n'est obligé d'aller sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Majidou Kacha. Je fais ma petite pub. Mais c'est juste pour dire, je pense qu'à la fois, c'est par le savoir et aussi par une politique, par des mesures politiques, je pense, intelligentes. Je pense que ça me semble être de bon sens ce que j'ai cité là.
Quel message adressez-vous aux Français musulmans qui veulent rester en France tout en restant pratiquants ?
Tant que leur pratique est compatible, n'enfreint pas les lois françaises, je peux dire que d'une certaine manière, j'ai pratiquement aucun message à leur dire, au sens où je suis indifférent autant à eux qu'à tout le monde sur l'aspect religieux. Moi, j'ai bien intégré la laïcité, qu'ils croient en ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que, avant que je commence à faire mon travail, notamment en France, où j'ai été le premier ex-musulman qui a montré son visage, qui a diffusé la critique de mon ancienne religion, l'islam, et d'autres se sont rejoints à cette cause depuis, j'ai fait partie des gamins qui ont grandi dans l'islam, dans une France des années 90, début des années 2000 notamment, où on n'entendait qu'un point de vue élogieux de l'islam. Entre la famille, le quartier musulman, la communauté musulmane, la mosquée, on n'avait pas l'occasion d'entendre une critique. Et en parallèle, même ces institutions formelles ou informelles françaises, que sont l'école, le cinéma, les documentaires à la télé, très peu, pratiquement, j'entendais même pas de critique de l'islam, vraiment. Il fallait voir une petite phrase subliminale dans un documentaire du genre « Dans tel pays de je sais pas où, les femmes portent un fichu islamique » et encore, ils présentaient ça comme une beauté esthétique, elles sont pudiques, ils ne présentaient pas ça comme une oppression. C'est vous dire à quel point on était préservé de toute critique de l'islam. Moi, ce que je veux, c'est j'ai voulu, dans l'agora intellectuelle, politique et sociale française, apporter une critique de l'islam qui, dorénavant, grâce à Internet, est disponible, effectivement. Parce qu'avant Internet, je n'aurais pas pu. J'aurais fait quoi qu'émander à la télévision et au cinéma le fait qu'ils veuillent bien diffuser mes œuvres, qu'émander à ce marché littéraire français extrêmement verrouillé, où c'est très difficile pour les opinions dissidentes comme celle-ci, la critique de l'islam par un ex-musulman, d'exister. J'aurais pas pu exister grâce à Internet. Internet, ça permet à tout le monde d'avoir sa chance. Sur YouTube, j'ai commencé à faire connaître mon travail, mes vidéos. Sur Amazon, je vends mes livres. Voilà, Internet a été une bouée de sauvetage pour toutes ces opinions un petit peu cachées avant, qui dorénavant peuvent s'exprimer. Et la critique de l'islam, dorénavant, existe aussi sur Internet, sans un risque pour sa propre vie, effectivement, beaucoup moindre. Et du coup, voilà, moi, je dis à ces musulmans, si vous le voulez, vous avez accès à un point de vue critique sur votre ancienne religion, enfin, sur votre religion, pardon, l'islam. Et si vous êtes si sûr de vos convictions, vous ne devriez pas vous inquiéter d'entendre des points de vue critiques sur votre religion. Moi, c'est ça que je leur propose. Je ne leur propose rien d'autre. Obéissez aux lois françaises, éduquez bien vos enfants, à vous comme à toute personne de toute autre confession, pas plus à vous qu'aux autres. Voilà. En tant que musulman, j'ai vraiment pas grand-chose à vous dire à part que je vous offre une critique de votre idéologie et ça ne devrait pas vous inquiéter. Si ça vous inquiète, c'est quelque part, vous savez que vous avez un problème plus ou moins inconscient avec vos idées. Moi, si, alors je ne pense pas avoir d'idéologie en particulier, mais si demain j'entends parler d'une critique de mon idéologie, ça m'intéresse moi de l'écouter. Ça me permet de challenger mes convictions, ça me permet d'entendre un point de vue différent sur mes propres convictions, ça me permet de me dire « Ah tiens, cette critique est quand même intéressante, du coup je vais développer un argumentaire pour y répondre » ou peut-être que ça m'invite à repenser ma façon de défendre mon idéologie. Moi ça ne m'inquiète pas, moi en tout cas. Mais il y a d'autres gens apparemment qui vous envoient des menaces de mort régulières et qui ne supportent pas que vous critiquiez leur secte du coup, parce qu'il faut vraiment être dans une secte pour avoir envie de tuer quelqu'un qui s'est échappé de sa religion et qui est juste libre de pouvoir exprimer des idées contraires.
Merci infiniment pour ce témoignage et cette heure d'entretien. Le livre s'appelle « Ce que je détestais dans l'islam quand j'étais musulman », disponible en librairie et en ligne. À très bientôt sur Frontières.